Bonjour à tous. Bienvenue pour cette plénière de l'après-midi. J'appelle sans tarder les participants à la plénière, nos intervenants à nous rejoindre sur l'estrade. Messieurs, alors je vais vous appeler un par un. Monsieur Alain Rousset est invité à nous rejoindre. Gabriele Fioni, Magnus Lamp, Michel Gigou, Pierre Villon. Bienvenue à tous. En attendant que nos intervenants s'installent, je crois qu'on m'en voudrait de ne pas remercier les organisateurs pour l'excellent buffet qu'ils ont servi, mais en tant qu'animatrice de la plénière, moi j'ai un remerciement particulier à leur adresser, c'est qu'en général, quand on anime une table ronde, à cette heure-là, après un déjeuner, c'est absolument redoutable, parce qu'il y a eu un déjeuner très lourd, alors tout le monde est un petit peu gagné par la somnolence. Là, c'était excellent et c'était en même temps très léger. Et je vous assure que ça va nous faciliter considérablement la tâche. De quoi parlons-nous cet après-midi? On parle d'un sujet très général, qui est le paysage de la recherche et ses transformations au cours des dernières années. Et je dois dire que c'est un petit peu une gageure, parce que effectivement, en 6 ou 7 ans, les choses ont considérablement changé. Alors avant d'interroger notre panel, j'aimerais juste retracer les grandes lignes de ces évolutions pour, en quelque sorte, introduire le débat. Et à tout seigneur, tout honneur, je crois qu'on ne peut pas ne pas commencer par le Prévite lui-même, créé en 1990 et qui a été une espèce de précurseur, en fait, dans ces nouvelles formes un peu de coopération interministérielle, coopération avec les opérateurs de la recherche, les acteurs de la recherche. En même temps, je crois que la demande politique et sociale pour faire évoluer les modes de transport, pour les verdir, était telle que, quelque part, un seul organisme, une seule initiative ne pouvait pas y répondre. Et donc, on a vu fleurir tout un tas d'organismes et de programmes qui ont vraiment transformé les choses depuis le milieu des années 2000. Pour les citer rapidement, je dirais évidemment l'électrochoc de l'Agence nationale de la recherche, créée en 2005, dont un des programmes d'ailleurs est inscrit dans le Prédite. Puis il y a eu très vite les pôles de compétitivité, dont nous avons un représentant parmi nous aujourd'hui en la personne de Michel Gigou, je présenterai dans un instant, et leur véhicule de financement, le fameux FUI, et pour les non-initiés, le Fonds unique interministériel. Et puis, il y a eu évidemment 2007, le Grenelle de l'environnement, qui a été à nouveau un espèce de choc politique avec des annonces structurantes, comme par exemple le milliard d'euros à investir dans les énergies décarbonées. Il y a eu évidemment en 2008 le fameux Fonds démonstrateur, de son vrai nom, le Fonds de soutien aux démonstrateurs de recherche pour les énergies décarbonées, qui est donc un résultat immédiat, je dirais sans doute l'un des plus visibles du Grenelle de l'environnement, puisqu'il était doté, il l'est toujours, de 400 millions d'euros. Nous avons eu évidemment l'année dernière les bases des fameux programmes d'investissement d'avenir qui ont été jetés, avec en tout 35 milliards, financés en partie par le fameux grand emprunt sur lequel tant d'encre a coulé. Je ne peux pas ne pas mentionner la réforme du crédit impôt recherche, qui a également été à la source de milliards d'investissements indirects sous la forme de crédit d'impôt, mais de milliards d'investissements publics quand même dans la recherche, et la création d'une multitude de nouveaux organismes, dont les 21 PRES, les pôles recherche et enseignement supérieur qui ont été créés depuis 2006, et les alliances qui ont été créées aussi à travers ou à l'intérieur, je dirais, de la stratégie nationale de recherche et innovation, la SNRI, avec l'Agence nationale de coordination de la recherche pour les entreprises, l'ANCRE, avec l'alliance environnement et ville, la LANVI, avec l'alliance sur les technologies numériques, l'ALCITEN, pardonnez-moi, qui sont autant de nouveaux canaux pour la recherche dans le transport terrestre. Alors, malheureusement, on devait avoir aujourd'hui avec nous un représentant de la Commission européenne qui nous aurait parlé notamment du 7e et du 8e PCRD. Il s'est excusé, il ne pouvait pas nous rejoindre. Il n'empêche que, évidemment, la dimension européenne est intéressante et je demanderai à nos intervenants de l'évoquer également plus tard. Qu'est-ce que tout cela montre? Je crois que tout cela montre qu'il y a effectivement une demande politique et sociale qui est extrêmement forte pour, disons, pour le dire d'une façon un peu journalistique, faire un saut quantique un peu aux pratiques de transport et aux technologies de transport. Cette demande existe, ça c'est certain, mais pour cette certitude, combien de questions n'avons-nous pas, auxquelles nous n'avons pas nécessairement de réponse? Et c'est à ces questions, en fait, que j'aimerais que notre panel réponde. D'abord, la question de l'intention et de la stratégie politique. Derrière cette profusion, finalement, qu'est-ce qui se dessine, qu'est-ce qu'on cherche à faire, en définitive? Une question aussi sur l'organisation de la recherche. Dans son livre blanc sur le transport, la Commission européenne écrit « Le passage à l'après-pétrole ne peut reposer sur une solution unique ». Et probablement, il ne peut pas reposer non plus sur un organisme ou un système de recherche unique. Certainement, une certaine entropie bénéficie au système de recherche. C'est bien d'avoir une profusion, mais peut-être qu'arriver à un certain point, ça peut nuire également. Et donc, c'est aussi une des questions que j'aimerais poser à nos intervenants. Et puis ensuite, il y a évidemment toutes les problèmes liés aux priorités de recherche, c'est-à-dire on peut se demander si à vouloir délivrer et changer les choses très rapidement, on ne risque pas de sacrifier la recherche à plus long terme et finalement à ne pas créer les conditions pour que les ruptures technologiques de demain se fassent. Peut-être la réponse à cette question est négative. Est-ce qu'on a trouvé le bon équilibre justement entre recherche fondamentale et technologie? Est-ce qu'on a trouvé le bon équilibre entre sciences humaines et sociales et technologie dans les priorités de recherche, entre les ressorts politiques et administratifs aussi, européens, nationaux, régionaux, et est-ce qu'on a trouvé la bonne articulation entre l'industrie et la recherche? Enfin bref, toutes ces questions sont sur la table et je suis sûre que notre distingué panel va nous permettre d'y apporter des réponses. Je présente, non pas dans l'ordre où ils sont assis, donc en commençant par monsieur Alain Rousset, qui est... Est-ce qu'on peut avoir un retour? Voilà. Monsieur Alain Rousset, donc on ne présente pas vraiment parce qu'on est un peu tous son hôte aujourd'hui, en fait. C'est lui qui nous accueille dans cette splendide région, président du Conseil régional d'Aquitaine, président de l'Association des régions de France, député de la Gironde. Président aussi de la cité scientifique et technologique de PESTAC Bordeaux Unitech. Et puis, il m'en voudrait de ne pas dire qu'il est également un militant de la première heure de la ligne TGV Sud-Europe-Atlantique. À ses côtés, à sa gauche, depuis la salle, Gabriele Fioni, qui est adjoint du directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère français de l'enseignement et de la recherche. Il en est également le directeur scientifique. Il a commencé sa carrière comme physicien nucléaire. Est-ce qu'on a le bon retour? Bon. Donc, tout à fait à droite de cette table ovale, depuis la salle, Gabriele Fioni, donc, qui a commencé sa carrière comme physicien nucléaire à l'Institut Lot-Langevin à Grenoble, après des études à Gand, en Belgique, et dans sa belle ville natale de Bologne. Monsieur Lamp, qui se trouve assis au milieu, nous vient de Cologne, où il dirige depuis 2010 le département Research Management du TUF, enfin de la société de conseil du TUF Rheinland, pour être tout à fait précis. C'est aussi un ingénieur de formation. Il a fait toute sa carrière au TUF et il a travaillé à ce poste en étroite collaboration à la fois avec le ministère fédéral de la recherche allemand et avec le ministère de l'économie et de la technologie. Il a également coordonné et dirigé des projets de recherche sur la mobilité dans les conurbations et sur la gestion du trafic. Donc c'est un spécialiste des sujets qui nous occupent aujourd'hui. Monsieur Michel Gigoux, qui se trouve tout à fait à votre gauche, qui dirige le pôle de compétitivité Moveo, centré sur l'automobile et les transports collectifs. C'est une responsabilité qu'il a depuis 2006. Il a avant fait carrière au sein du groupe Volvo, dont il a beaucoup, pour lequel il a beaucoup travaillé, notamment en Asie. Et enfin, M. Pierre Guyon, qui se trouve donc juste à la droite de M. Gigoux, par déduction, vous verrez, vous le reconnaîtrez, qui dirige l'Institut des sciences et de l'ingénierie, et des systèmes, l'INSIS, qui est rattaché au CNRS, évidemment, à Paris. C'est également un physicien de formation, décidément, Et M. Guyon a notamment été conseiller scientifique du directeur général de l'armement entre 2003 et 2006, où il a créé une mission de recherche et d'innovation scientifique, ce qui apparemment à l'époque n'allait pas de soi. Et je comprends aussi qu'il est très impliqué dans les programmes d'investissement d'avenir en tant que directeur scientifique référent du CNRS sur les sites de Bordeaux et de Saclay, qu'il me corrige si je me trompe. Voilà, tout petit détail technique, deux petits détails techniques avant de lancer le débat. Monsieur Lamp s'exprimera en anglais. Par conséquent, si vous voulez disposer d'une traduction simultanée de ses propos, il faut vous munir d'un casque qui sont disponibles tout près. Et je demande également aux intervenants de répondre si possible en 3-4 minutes maximum aux questions afin de pouvoir réagir, que vous puissiez réagir aux propos les uns des autres et surtout que nous puissions interroger la salle. Je laisse sans tarder la parole à Monsieur Gabriele Fioni qui, en tant que représentant du ministère de la Recherche, va nous expliquer finalement derrière ce foisonnement d'organismes, d'initiatives et cette abondance de crédits, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans la recherche sur le transport, quelle stratégie se cache et quelle intention politique il faut y lire. À vous.
Merci. Je pense qu'il y a certainement une volonté de répondre à un questionnement qui est un questionnement essentiellement de notre société. On observe depuis quelques années une prise de conscience de plus en plus forte de l'impact de l'homme sur son environnement et sur la non-durabilité des ressources qui sont exploitées de la même manière. Et donc la question, je pense, à laquelle on essaie un petit peu de répondre, d'apporter des éléments de réponse, est vraiment d'essayer de voir comment on peut arriver à une soutenabilité du point de vue environnemental et aussi économique. On observe depuis quelques années de plus en plus d'inquiétudes qui émergent et des questionnements concernant la mondialisation et tout ce qui est ces impacts en termes de localisation qui peuvent être à la fois des localisations des productions et des recherches. Donc, pour ce qui est de notre ministère, le ministère de la Recherche, c'est vraiment de dire que l'une des petites pièces des réponses à ces questionnements de notre société est l'innovation. Qui parle d'innovation, c'est essayer de faire en sorte d'avoir des technologies qui soient capables déjà d'être moins gourmandes en ressources, de mieux exploiter ce que nous avons sur notre planète. Et de l'autre côté, qui parle d'innovation, parle de compétitivité industrielle, qui est aussi un élément de la réponse pour essayer de garder une activité forte en France, qui soit à la fois industrielle, mais aussi une activité forte de recherche. Il ne faut pas oublier la délocalisation, qui peut être une délocalisation des productions, pourrait un jour devenir une délocalisation de l'intelligence. Donc d'où la volonté un petit peu d'accélérer une symbiose entre deux mondes, deux univers, qui travaillaient les deux dans la recherche, en une recherche publique, donc vouée à acquérir de la connaissance, et après il y avait un monde qui était un petit peu parallèle, qui était un monde où la recherche était utilisée comme instrument pour créer de la valeur. Je pense que les prédits, okay, vous avez parlé de 90, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très en amont de ce que nous on essaye maintenant de faire à toute échelle pour essayer de faire que ces deux mondes qui étaient un petit peu parallèles soient de plus en plus ensemble pour relever ce défi. La recherche publique d'un côté, avec ses points forts, et la recherche industrielle de l'autre, ensemble pour produire de l'innovation.
Monsieur Rousset, vous partagez ce constat. Vous trouvez votre compte dans toutes ces transformations en tant que dirigeant de l'exécutif régional, particulièrement intéressé par les questions de recherche et de transport?
Oui. Alors, permettez de de dresser un amical coucou à mon collègue, président du Prédit et voisin. J'ai plaisir à accueillir ici. Moi, je voudrais partir d'un autre angle qui est ma préoccupation aujourd'hui, si vous permettez. Je pense que notre pays, et comme beaucoup de pays, à la différence de l'Allemagne, n'ont pas de stratégie industrielle. Là, il y en a une. Donc on ne va pas bouder notre plaisir. On est tous les deux membres de la commission de la défense et on intervient souvent dans le même sens pour dire qu'il faudrait qu'on ait des stratégies industrielles derrière des budgets importants. Pour autant, en vous remerciant de m'inviter, j'ai vu que vous aviez invité le Vincent Feltès, quand je regarde les étiquettes, les logos de ceux qui animent, qui sont derrière ce colloque, il n'y a pas une collectivité locale française. Le grand absent de ce débat, même si c'est présidé par un député, c'est qu'il n'y a pas les consommateurs et il n'y a pas les financeurs des systèmes de transport. Nous restons d'un jacobinisme incroyable, alors même que le problème, c'est de savoir, pour le consommateur et l'usager, pour la collectivité locale qui paye, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Que ce soit d'ailleurs dans des systèmes de transport terrestre de type tramway, j'ai présidé la communauté urbaine pendant 2 ans et demi, 3 ans, problème lié à la robustesse et à la qualité du matériel. Nous savons, nous, régions qui achetons par milliards des TER, que le matériel n'est pas vraiment au point et que le coût de maintenance par la SNCF est insupportable et que la notion de robustesse, qui est pourtant une notion industrielle bien connue, n'existe pas, en dehors du coût pharaonique du matériel qu'on nous vend. Alors, ça ne fait peut-être pas partie de la recherche, je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble que nous aurions intérêt, dans ce fichu pays de France qui demeure jacobin, le dernier pays démocratique à être jacobin, il faut quand même que l'usager et celui qui paye puissent participer. Troisième observation. Je rappelle que les régions françaises financent la recherche autant que l'ANR. Autant que l'ANR. Sauf que, je l'ai dit à la directrice de l'ANR, il faudrait peut-être qu'on arrive à engager le dialogue. Y compris d'ailleurs parce que nous pourrions concentrer nos efforts sur un certain nombre de problèmes de recherche, sur le stockage de l'énergie. On sait qu'un des problèmes de l'énergie de demain, ça sera son stockage. Je parle sous votre contrôle. J'ai feuilleté à l'instant l'ensemble des réflexions. On n'aborde pas ce problème essentiel de demain. On parle d'éoliennes, on parle de tout ce qu'on veut, on ne parle pas de stockage d'énergie. Et s'il y a un point important pour essayer de développer le véhicule électrique, un certain nombre d'autres systèmes, il me semble que le problème du stockage de l'énergie est un problème essentiel. En quoi une région comme la mienne est-elle dans le film de cette problématique? Elle peut l'être sur le plan politique. Vous avez dit, je me bats, je ne suis pas tout seul, mais je me bats pour que nous substituions le plus possible le rail à la route. Pour ça, il faut qu'il y ait des liaisons rapides, il faut qu'il y ait des voies dégagées, notamment pour le fret, et donc il faut qu'il y ait un TGV. Et ensuite, il faut que nous ayons un déploiement du rail qui soit important dans ce domaine-là, avec une situation assez dramatique sur le plan de l'état de l'équipement. Mais nous intervenons pas mal aussi sur le plan de la recherche et de la technologie, le stockage d'énergie en la batterie, la recharge rapide. Bref, il y a dans ce domaine-là. Je voudrais juste évoquer, après je ferai que du positif, là maintenant je suis en train d'essayer de... On a un problème aujourd'hui pour développer des systèmes de transport terrestre respectueux de l'énergie. Certes, on va savoir faire du pétrole vert, de plus en plus, même les hélicoptères s'y mettent, mais on ne développera pas le véhicule électrique tant qu'il n'y aura pas une commande publique forte. Tant que l'État ne donnera pas à la Poste, aux grandes collectivités, une forme d'injonction d'acheter. Nous avons raté en Aquitaine une industrie qui était liée à Dassault sur le véhicule électrique, tout simplement parce que les grands comptes de la commande publique n'ont pas commandé à cette véhicule. Voilà. Pardon d'avoir été un peu perturbant, mais...
Je retiens notamment qu'il faut... Peut-être qu'il y a des résultats de la recherche relativement rapides à obtenir à travers une sorte de recherche incrémentale à la marge sur des véhicules existants. Enfin, c'est ce que vous disiez sur le TER. Il y a des solutions, en tout cas, qui pourraient être immédiatement utilisables. Monsieur Lamps, c'est difficile d'être le représentant de l'Allemagne. C'est terrible parce que quand on vient en France parler d'industrie et de recherche, on est toujours montré comme le bon élève de la classe, l'exemple, etc. J'aimerais pas être à votre place. Dites-moi, est-ce que le paysage de la recherche en Allemagne a également évolué fortement ces dernières années? Cette qualité qu'on vous prête et que vous prêtez, Monsieur Rousset, à l'instant, d'avoir une vraie stratégie industrielle, notamment dans le domaine du transport, est-ce que vous la constatez? Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'elle se manifeste à travers des initiatives précises?
Yes, thank you. So far as I can report from Germany, we really saw some modifications in our research schemes as well, and we were able to transform our research schemes coming from top-down approaches in the past and being transformed in more holistic approaches based at least on a broader discussion following the needs coming from the society and from the, if you want, so mega trends like demographic change, like climate change, like other effects relevant for the political discussion. And it was done in different gremias where, for example, the so-called high-tech strategy for Germany was introduced and defined, and at the moment the high-tech strategy is under evaluation, and there will come up a new update of that, which will be the instrument to coordinate, for example, research funding in the field of high-tech in Germany between the different funders, between the different ministries, and that is done at the moment.
Je me suis laissé dire que la chancelière Merkel devait recevoir ces jours-ci, ou venait de recevoir, un rapport de ce que vous appelez en bon allemand le National Electromobility Platform. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qu'est-ce que c'est que cette initiative?
Yes, since a few years we are at least in whole Europe, discussing the question of mobility in the future in strong relation to the question of the of oil, peak oil things, and we are discussing a lot about electromobility, and Germany has taken up this discussion in organizing a group of representatives from industry, from small and medium enterprises, from the academic research institutions, and they give advice to the federal German government how to foster research and at least implementation and market penetration in the field of electromobility. And we will actually have the next report of this group to be handed over to Dr. Merkel, our Chancellor, next week.
Merci. Monsieur Gigoux, vous qui veniez de l'industrie avant de prendre la tête de Moveo, finalement, et donc vous faites partie maintenant des nouveaux acteurs de cette scène de la recherche, qu'est-ce que, de par votre expérience chez Moveo et votre expérience antérieure chez Volvo, qu'est-ce qu'à votre avis un pôle de compétitivité apporte justement?
Alors, je vais me permettre de faire un tout petit commentaire. C'est-à-dire, Moveo, pôle de compétitivité, acteur de la recherche, non. Nous sommes des facilitateurs, nous sommes des enableurs, mais les acteurs de la recherche, ce sont nos membres. Ce sont les membres qui sont issus des laboratoires publics, des laboratoires privés. Ce sont les membres qui sont issus des grandes écoles qui sont dans notre, dans le pôle. Grandes écoles qui vont de Paris Tech à des écoles de commerce comme l'ESSEC. Et c'est pas du tout nominatif, mais c'est pour montrer le spectre des écoles qui sont intéressées et qui considèrent comme être intéressant d'être chez nous. Et puis, c'est aussi un immense tissu de PME, parce que sur nos 300 et quelques membres, on a plus de 150 PME. Les PME qui sont membres de Moveo, ce sont des PME innovantes, donc assez souvent, ce sont des essaimages en français, non pas des spin-offs, ça serait plus facile pour comprendre, mais des essaimages ou alors, des PME qui sont créées autour d'un concept fort. Donc, je dis, notre mission, c'est l'animation, c'est de faciliter, autrement dit, c'est de réaliser, à faire que les gens comprennent que de travailler ensemble, eh bien, ils ont plus de chances d'arriver à un résultat concret. Il a été dit par M. Fioni que l'objectif de la recherche privée, ou publique plutôt, autrement dit, payée, pas subventionnée, j'ai horreur de l'expression subventionnée, mais l'objectif de la recherche publique, c'est d'acquérir la connaissance. On a au sein de Moveo à peu près 50 représentants de ce acquérir la connaissance. Par contre, on a 250 membres qui sont là pour créer de la valeur. Et c'est le rôle du pôle, c'est de mixer, de faire que cette communication existe entre, la connaissance et puis la connaissance applicative qui crée la valeur. Et un des rôles d'un pôle comme Moveo, un pôle qui gravite autour de la mobilité individuelle et principalement du mobile, de la mobilité individuelle qu'on appelle dans notre jargon une automobile ou même une voiture, si on va un petit peu plus loin. Ben, notre rôle, c'est dans un univers industriel, dans un univers où les grands constructeurs ont eu à faire des choix. Les grands constructeurs ont perdu une partie de leurs compétences et de leurs connaissances à la marge de leurs préoccupations. Eh bien, le pôle Moveo est là pour leur donner la complémentarité de compétences et de connaissances. Et puis aussi, une industrie, on la connaît, l'industrie de l'automobile est une industrie qui est en pleine évolution. On n'est plus dans le Kaizen, on est vraiment dans l'évolution, parce que on était habitué sur les 20 dernières années à avoir à suivre un certain nombre d'évolutions normatives. Et puis là, on s'est trouvé dans un changement de culture, c'est-à-dire que l'évolution a été plutôt au niveau du client qui veut avoir un produit plus respectueux, plus en phase avec le monde de demain. Donc cette révolution, elle était peu préparée et elle a découvert chez nos membres principaux des failles. Et le rôle du pôle, c'est de faire que ces failles soient comblées et qu'on puisse repartir très très rapidement. Je voudrais simplement faire un tout petit commentaire aussi sur ce qui a été dit. Au niveau du pôle Moveo, le stockage de l'énergie renouvelable est une de nos thématiques. On a 7 thématiques et quand on parle d'énergie renouvelable, on ne pense pas uniquement à l'électricité. Vous savez, un volant, c'est de l'énergie renouvelable. On a un exemple, et là je reviens sur mon ancien dada, on a un exemple très très intéressant sans aucune application industrielle, mais on a travaillé sur un projet qui est piloté par Williams Grand Prix Engineering sur une Porsche qui a réussi à améliorer ses performances grâce à un système de récupération d'énergie dynamique. L'autre élément que vous avez mentionné, c'est que
il faut faire rouler les fonctionnaires en Porsche, c'est ça, les postiers?
Non, 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 non,
Non, non.
Oui, mais enfin, j'allais dire, quelque part, l'intérêt, c'est de montrer que les applications, on les retrouve partout. Ouais. L'autre élément, on parlait du stockage, c'est qu'on a aussi, sur l'ensemble de nos thématiques, et comme vous l'avez très bien dit, cette volonté de s'assurer que quand on lance un nouveau produit, ce nouveau produit a un niveau de qualité qui est bien compris et bien saisi, et surtout la fiabilité, c'est un élément qui est très, très, très important dans toute innovation. Une innovation sans qu'il y ait une notion de fiabilité, c'est toujours assez relativement dangereux. Vous citiez l'exemple, c'est-à-dire, mais il y a 25 ans, moi en tant que DCC de Renault sur la région du Sud-Ouest, on a vendu des véhicules électriques avec des batteries au plomb, c'était pas forcément très très fiable.
Juste une petite question, Monsieur Gigou. Vous êtes un maillon. Vous n'êtes ni tout à fait dans le monde de l'industrie, ni tout à fait dans le monde de la recherche. D'accord, se mettre d'accord là-dessus. Vous êtes un maillon.
J'ai quitté ce monde il y a 5 ans.
Non, vous personnellement, pardonnez-moi. Je voulais dire mauvais mot. Quand même une petite question. Est-ce que votre expérience, c'est que à travers un pôle comme Moveo, vous observez que les industriels font évoluer leur stratégie, c'est-à-dire est-ce que cette rencontre un peu avec le monde de la recherche, ce travail en commun aussi avec les sous-traitants et tout, change en fait la vision des choses des industriels, et j'aimerais bien aussi que vous approfondissiez la question de la demande, parce que vous disiez il y a une demande sociale pour des véhicules verts. Nous, ce qu'on entend beaucoup comme citoyens, c'est qu'il y a surtout une grosse demande sociale pour des gros 4x4 très polluants. Donc, il y a peut-être les deux. Mais est-ce que vraiment on peut affirmer ça ?
Non. Alors, je vais d'abord essayer de répondre à la première partie de la question au niveau de la stratégie des constructeurs. Il ne faut pas quand même qu'on rêve. Un pôle comme Moveo ne va pas impacter la stratégie qui était ou qui est la stratégie de Renault, la stratégie des marques ou même la stratégie des équipementiers de rang 1 que nous avons comme membres. Je parle de Valeo parce que je sais que Guillaume de Vauchel, le directeur de la R&D de Valeo, est quelque part dans l'assistance. Non, on n'est pas là. Par contre, il y a une chose qui est relativement intéressante. Qui a été réalisé sur les deux dernières années, c'est qu'on peut dire que pour la première fois en France, les constructeurs et leurs partenaires équipementiers rang 1 ont décidé ensemble de travailler sur ce qu'on appelle dans notre jargon le pré-compétitif, c'est-à-dire le très en amont pour l'industrie qui est le très en aval pour notre ami M. Fioni. C'est-à-dire, quelque part, à ce niveau-là, et pour nous, au niveau d'un pôle de compétitivité, on trouve que c'est quelque chose qui est vraiment déterminant et qui sera facteur d'un renouveau, parce qu'à partir du moment où ils ont décidé de travailler ensemble sur l'amont, ils ont aussi la possibilité de faire appel à des compétences qu'ils n'ont pas, d'où, et je reviens, c'est ce process vertueux d'aller chercher des compétences, de les intégrer dans votre système. Puis ces compétences, quand c'est une PME, à partir du moment où elle est compétente pour la R&D, assez souvent, elle devient compétente aussi aux yeux du service achat. Et ça n'est pas négligeable, parce qu'une PME, elle ne vit que par le chiffre d'affaires et la marge qu'elle peut faire sur ce qu'elle vend. Une PME ne vit pas de subsides ni de la beauté des fruits que l'on peut récolter gratuitement sur les arbres.
Merci. Pierre Guillon, finalement, vous êtes représentant ici du CNRS, c'est un peu le canal historique de la recherche par rapport à tous ces nouveaux organismes que j'ai cités. Comment vous inscrivez dans ce paysage, vous, qui faites partie de cette ancienne et noble institution? Comment vous avez vécu ça et qu'est-ce que vous y trouvez, en fait, comme moyen d'améliorer votre fonctionnement et de produire...
Canal historique, je ne sais pas si c'est très flatteur, mais enfin, peu importe. Bon, vous le savez, le CNRS est organisé autour de 10 instituts qui couvrent globalement l'ensemble du champ disciplinaire scientifique. On va de l'électronique, l'informatique, la biologie, les sciences humaines et sociales, il ne faut pas les oublier. Et je crois que cette organisation en 10 instituts est un facteur important de l'interdisciplinarité. Et c'est une avancée considérable que le CNRS essaie de faire, essaie de mettre en place, puisque une grande partie des ruptures, qu'elles soient technologiques ou scientifiques, ont certainement lieu à l'interface. C'est éventuellement le cas pour les transports, pour le domaine des transports. Et donc, de ce côté-là, le CNRS est un acteur majeur. Mettre en synergie les disciplines. Je pense que le CNRS est un autre acteur majeur, ailleurs que sur le plan scientifique, en fait, qui aide sur le plan scientifique, bien sûr, mais c'est dans son organisation, puisqu'en fait, il est très impliqué dans les écoles et dans les universités, via ses unités mixtes de recherche. Il est très impliqué aussi, vous venez de le dire, dans les pôles de compétitivité. Je crois que c'est un maillon fort des pôles de compétitivité. Il est très impliqué aussi dans les structures mises en place récemment, qui sont celles des Carnot. Donc tout ceci fait que le CNRS couvre un large champ scientifique, mais il couvre aussi un large domaine du champ qui va de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Alors, j'aime pas beaucoup ces deux termes, parce que pour moi, il n'y a pas de recherche fondamentale, il n'y a pas de recherche appliquée, il y a de la recherche qui évolue, et chacune se nourrit de l'autre. C'est-à-dire la recherche fondamentale, comme on l'applique, comme on la nomme, satisfait la recherche appliquée, mais la recherche appliquée permet aussi à la recherche fondamentale de faire des progrès.
Merci. Monsieur Fioni, dans le débat sur la politique de recherche, il y a des serpents de mer, il y a notamment deux articulations critiques qui sont d'une part l'articulation entre le centre et les régions, je dirais, entre le ministère et les pouvoirs régionaux, et puis l'articulation entre la recherche publique et la recherche privée. C'est des questions anciennes, c'est des questions sans solution absolue, mais qui sont au contraire auxquelles on cherche toujours à apporter des améliorations. Comment est-ce que vous diriez que les choses ont évolué selon ces deux axes, se sont améliorées ces dernières années éventuellement? Donc à la fois dans l'articulation entre le ministère et les pouvoirs régionaux d'une part, M. Rousset signalait que les régions investissaient énormément, autant que l'Agence nationale de la recherche, et puis l'articulation aussi entre recherche publique et recherche privée, dont apparemment les pôles de compétitivité sont un des lieux, mais pas les seuls, j'imagine. Et vous qui avez une vision plus large, nationale des choses, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet?
L'évolution a été impressionnante, ça c'est clair. Si on va... La création des pôles remonte à pas il y a très longtemps, hein, c'est-à-dire 5 ou 6 ans, non 6 ans, disons, mais les temps passent malheureusement. On a eu de plus en plus des mesures qui ont été mises en place justement pour arriver à s'attaquer à cette aux frontières de la connaissance déjà, et aux frontières entre disciplines. Du point de vue politique, les choses intéressantes se passent toujours aux frontières. Parfois, sont même des guerres, malheureusement, qui se passent aux frontières. Dans la science, c'est la même chose. Quand vous cherchez quelque chose en rupture, très souvent, vous êtes à la frontière soit de votre domaine, soit entre votre domaine et un autre. A été justement évoqué que les régions financent énormément. Juste pour donner des chiffres, si je ne me trompe pas, les collectivités territoriales pèsent à peu près 1 milliard d'euros par an, contre les environ 15 milliards d'euros de l'État. Okay. Et ces milliards est vraiment quelque chose d'essentiel. J'ai dit tout ce qui a été fait et qui est en train de se faire, c'est essayer vraiment de mettre en symbiose le monde de la recherche publique et privée. On double vraiment nos efforts. En France, on a 200 000 chercheurs, quasiment à part égale entre public et privé. Le privé est légèrement supérieur, de quelques pourcents. Si les deux se parlent, vous voyez, l'effet de levier devient énorme. Mais pour se parler, c'est que les grands exemples dans le monde, même si personnellement, ayant été obligé à aller dans différents pays, je suis moins admiratif de tout ce qui est à l'extérieur. Okay. Comme Italien, quand vous êtes en Italie, tout ce qui se fait bien, c'est à l'extérieur. Maintenant, je suis un petit peu moins affirmatif dans ce sens. Cependant, ce qu'on observe, tout le monde parle de la Silicon Valley. Hein, 99% des gens qui parlent de la Silicon Valley sont jamais allés là-bas. Ils imaginent que c'est une vallée du Périgord de 500 mètres de large et de 3 km de long. En réalité, c'est loin d'être le cas. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut être plusieurs sur le même site, avoir même une proximité physique. Ce qu'on a observé, et je pense que l'Aquitaine, sur ces deux sites principaux, c'est un exemple, quand on a une vision claire au niveau politique et une volonté de mettre en synergie différentes personnes, on peut y arriver. Donc, c'est là où, je pense, tout le monde, une fois qu'on a une vision claire, se met ensemble pour réussir.
Merci, Monsieur Rousset. C'est votre constat aussi qu'il faut, il faut créer des lieux, et des lieux où les gens puissent parler et travailler ensemble pour approcher les entreprises et la recherche, pour permettre justement ces transferts de technologies. C'est ça la politique que vous avez menée ?
Oui. Comment dire, à fond, quoi, donf, comme dirait. Oui. Mais encore une fois, je vais illustrer ce qui vient d'être dit et votre question avec des exemples que l'on pratique ici.
Je vous en prie.
Mais encore une fois, je veux dire, moi je voudrais que tout le monde ait bien conscience de la nécessaire révolution culturelle que la France doit faire. La France est sur un mode vertical. Les organismes qui nous invitent ici sont des organismes nationaux. Alors que le modèle des transports devrait être un modèle décentralisé. Qu'il y ait des choix technologiques que l'on veuille garder, la grande vitesse, le freinage, les composites, ok. Mais je le redis parce que la France est en train de se désindustrialiser parce qu'elle est jacobine. Parce que nous n'avons pas le modèle des Mittelstand, des entreprises de taille intermédiaire. Tous les fonds propres viennent de Paris. Nous n'avons pas une fiscalité adaptée à cela. Vous savez, en Allemagne, les choses sont très simples. Les Länder allemands sont l'actionnaire principal des caisses d'épargne allemandes, qui sont elles-mêmes l'actionnaire principal des entreprises allemandes. Et n'allons pas chercher plus loin. C'est comme ça qu'on finance les Mittelstand et qu'on finance la structuration industrielle. En France, on a des grands groupes, champions internationaux, parfaits, merveilleux. Sauf qu'aujourd'hui, ils achètent sur étagère une partie de leur production, qui s'appelle Airbus ou qu'ils aient un autre nom. Et ils se servent des PME de chez nous pour organiser leur propre low cost. Et je peux vous dire qu'on connaît cela parfaitement dans le Sud-Ouest. Alors, quels sont les exemples de ce besoin de transfert ? Écoutez, vous avez d'abord un modèle sur les centres de transfert qui est soit le modèle espagnol, Pays Basque, espagnol, soit le modèle québécois. Vous avez un organisme au Québec qui s'appelle l'Institut National Optique, d'Optique, peut-être mon voisin connaît bien, que nous avons reproduit ici, en Aquitaine, ça s'appelle Alphanov. C'est très simple, vous rentrez de la technologie, vous sortez de l'entreprise. Et nous sommes déjà, tout ça à peu de temps, nous avons déjà créé plusieurs entreprises à travers cela. Et il faut que nous mettions tout ça en place, le long de l'université, dans l'université. Mais en tout cas, il faut que le transfert de technologie s'organise avec des professionnels. La compétence universitaire n'est pas tournée vers cela.
Hein ? Mais alors, j'allais dire, quelles sont les conditions à remplir pour que ça se fasse vraiment ? Vous parliez des financements, donc. Problème, source de financement.
Non, le financement, j'en parlais pour à l'occasion de je disais que à partir du moment où on est organisé sur un système vertical, hein, et vous avez le système industriel français est aussi jacobin que le système administratif français. D'accord ? On a un appareil d'État très fort, hein, qui reste comme sous Napoléon. et on a une organisation industrielle faite de grandes entreprises et de TPE. Ça ne peut pas marcher, ni sur le plan démocratique et de la responsabilité politique, ni sur le plan industriel. Nous sommes en train de désindustrialiser. Ce n'est pas un problème de gauche et de droite, entendons-nous bien. Hein, c'est un problème culturel. Alors, comment ça marche? Mais, écoutez, vous avez dans les universités la nécessité de mieux faire connaître ces brevets. C'est pas, parfois, il n'y a même pas besoin de déposer en brevet. Enfin, en tout cas, un certain nombre de produits, de futurs produits, qui supposent une maturation. Ce n'est pas parce que vous aurez trouvé sur la paillasse d'un laboratoire une molécule, un produit X ou Y, que tout cela va se vendre sur le marché. Hein ? Il faut qu'il y ait la conjonction d'un produit et d'un marché, et d'un porteur de projet. Tout ça, c'est un métier. Ça s'appelle la maturation, que nous n'avons pas mis en place en France, que les collectivités mettent en place. Aujourd'hui, le Grand Emprunt nous propose une usine à gaz qui s'appelle SATT, dont sont volontairement exclues les régions qui financent toutes les structures de transfert de technologie de France et de Navarre, parce que ça suppose des coûts de fonctionnement. Une opération comme Alphanov, qui a été financée, donc qui est la structure où on a copié, tout simplement. Je ne dis pas que j'ai fait une action extra-révolutionnaire, mais on est en train de la mettre en place sur les matériaux composites, on est en train de la mettre en place dans d'autres domaines. Et ça coûte plusieurs millions d'euros, parce qu'il y a 14 personnes qui travaillent là-dedans, qui sont spécialistes de la valorisation, qui savent vérifier s'il y a un marché, qui savent aller chercher peut-être un porteur de projet, qui ne sera pas forcément un chercheur, mais ça sera peut-être un commercial. Mais ce sont des mécanismes que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Canada, on connaît parfaitement ça. Aujourd'hui, on va mettre en place en France une structure qu'on va appeler SATT, Société d'accélération des transferts de technologie, dont le pouvoir va être aux universités, qui n'ont aucune compétence dans ce domaine-là, dont seront exclues les régions dont c'est le job, et qui vont valoriser les brevets. Mais c'est pas parce que vous aurez valorisé un brevet, déposé un brevet, récupéré un peu d'argent, que vous allez le transformer en produit à mettre sur le marché. Qui assure la chaîne? Et donc, on est, pardon de le dire, je me fais un peu le mauvais élève de cet après-midi, mais j'ai des voisins qui vont me répondre. Et force est de constater qu'à la fois, ce grand emprunt, c'est une très bonne idée. Il ne s'applique pas peut-être partout là où il devait s'appliquer. Moi, j'aimerais bien aimer, par exemple, qui permettent de boucler les grands plans de transport de France qu'on ne sait pas financer, parce que ça aurait tiré la demande par rapport aux grands constructeurs, premièrement, qu'on résolve un certain nombre de grands problèmes technologiques. Je le dis aux représentants du ministère de la Recherche, la France est totalement dépendante sur les matériaux composites du Japon, et si le séisme était intervenu au sud du Japon, Airbus et Dassault ne seraient plus capables d'habiller leurs avions en matériaux composites, aujourd'hui. Hein, ça, c'est de la recherche stratégique. Pour l'instant, ce qu'on fait à travers le grand emprunt, c'est du bottom-up. On fait un marché, comme les pôles de compétitivité. Hein ? Il faut mixer les deux stratégies. Donc voilà, je me permets de... J'en profite. Hein, que
Pierre Guyon, peut-être que vous voulez quand même répondre quelque chose. Moi, il me semblait que le fonds démonstrateur était censé apporter une partie de la réponse aux questions que vous souleviez. Mais je vous laisse... Réponse, c'est si difficile de transformer une technologie sur étagère en produit?
Une première réponse sur la maturation. Je pense que vous avez tout à fait raison. La France n'est pas organisée actuellement, ou très mal, pour faire de la maturation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Un brevet, c'est un brevet, mais en fait, si on ne l'exploite pas, ça ne sert pas à grand-chose. Le CNRS a évolué, d'ailleurs, est en train d'évoluer pour effectivement... abandonner sa politique qui était celle de la politique du brevet pour essayer de mettre en place des systèmes de maturation. Et effectivement, d'être un acteur actif dans ce domaine-là. Ça, c'est le problème, la réponse pour la maturation. Et je pense que dans les mois à venir, on pourra être beaucoup plus efficace. Sur le grand emprunt, je ne suis pas un défenseur du grand emprunt, je n'ai pas la compétence et je ne suis pas le représentant de l'État. Ce que je peux dire, c'est que, en ce qui concerne tous les outils, notamment les EquipEx, équipements d'excellence, les LabEx, qui est les laboratoires d'excellence, je pense que ce sont des outils excellents et excellents sur les sites. Le CNRS s'implique beaucoup sur les sites universitaires. Pourquoi ce sont des points importants? Parce que le LabEx, en fait, ce sont des parties d'équipes qui se regroupent pour créer des projets à long terme et des projets à risque. Donc c'est ici qu'on va mélanger les compétences, donc je reviens sur l'interdisciplinarité, et c'est ici qu'on va mettre les spécialistes de discipline autour d'un même projet pour qu'ils puissent avancer. Et je crois que c'est pour ce cas-là, les investissements d'avenir sont vraiment une voie excellente.
Merci. Monsieur Gigou, quelque chose à ajouter sur vous aussi, vous êtes à la frontière des deux, donc qu'est-ce que vous inspire les remarques de Monsieur Roussin?
Moi, je voulais simplement faire un tout petit, un commentaire au nom des pôles, c'est que au niveau des investissements d'avenir, il y a dans cette enveloppe des outils qui nous semblent, nous, avec notre vision pôle, des outils complètement structurants pour le futur de la filière dont Moveo est issu, c'est-à-dire la filière de la mobilité individuelle. Que nous parlions d'EquipEx, de LabEx, les EquipEx et les LabEx ont été, j'allais dire, vus par nos experts au niveau du pôle. Ils ont été labellisés par le pôle. Ils sont connus et reconnus du monde économique qui gravite autour du pôle. Quand je vous disais cette expression, nos membres, j'allais dire la moitié de nos membres sont chez nous pour acquérir de la valeur. Hein, là, il n'y a pas de miracle. Alors, au niveau du pôle, on a tendance, au niveau de Moveo, on a tendance à jamais utiliser valeur avec le synonyme ou l'équivalent de nombre de personnes, parce que quelque part, c'est la valeur qui crée l'emploi. Hein. Mais ça, c'est une évidence. Quand on parle de la partie, véhicule du futur qui est géré par l'ADEME, ce sont de grands projets. Vous reviendrez dessus au niveau, parce que c'est la suite un petit peu du Grenelle de l'environnement, mais ce sont des grands projets structurants qui ne sont pas des projets qui sont simplement de dépoussiérer des projets qui ont été faits il y a quelques années et qui sont dans des classeurs magnifiques. On est vraiment dans la refonte et révision de ce que qu'on peut appeler la stratégie d'une filière. Et puis, un outil comme un institut, et je sais que vous en avez un sur la région Aquitaine, mais un outil comme un institut, ben, c'est pour un pôle, ben, c'est la fondation, c'est-à-dire ce sont les ressources qui vont permettre au pôle, aux membres du pôle, eh ben, d'avoir un meilleur accès à des outils, donc avoir une meilleure possibilité de convertir une idée, de convertir, j'allais dire, une suspicion ou une découverte en quelque chose de concret. Donc, je crois que là, il faut... Je peins peut-être un petit peu d'une manière idyllique le paysage, mais sachez qu'au niveau d'un pôle comme le pôle Moveo, on a vraiment l'impression que, c'est-à-dire, ça prend corps, qu'il y a un axe, c'est-à-dire qu'il y a une direction, et peut-être plus important, venant du monde anglo-saxon, ayant pas mal travaillé, j'allais dire, dans les pays scandinaves, il y a une certaine pérennité, une certaine consistance. Enfin, moi, je viens d'un milieu, AB Volvo, où quelque part, un président ou une stratégie, c'est 15 ans. Si on se plante, on se plante et on recommence, mais on jette jamais l'eau, et on jette jamais le bébé avec l'eau du bain. Donc, c'est quelque chose qui est pour nous, c'est-à-dire important et qui nous semble être structurant. Et je pense que les membres, parce que c'est-à-dire la beauté d'avoir une réunion comme celle-ci par rapport à une réunion des membres de Moveo, je crois qu'il doit y avoir quand même au moins 50%, mais potentiellement 30% des membres ici qui connaissent bien Moveo. Donc, on est vraiment dans cette approche.
Monsieur Fioni, on a eu droit à quand même ce qui ressemble un petit peu à une attaque en règle contre les programmes d'investissement d'avenir, enfin en tout cas des remarques constructives. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce qui est en place, parce que là on est dans une phase intermédiaire, je dirais, où les programmes sont un peu plus qu'esquissés, donc ça va venir, enfin je veux dire, tout ça va se mettre en place, les fonds vont être libérés. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les grandes lignes dans le transport terrestre de ce que ça va apporter?
Alors, je remercie mes collègues pour avoir déjà donné une vision de la part du terrain sur l'investissement d'avenir. C'est un petit peu notre enfer quotidien, mais on est bien content d'être au chaud. Car je pense, comme administration, on fait tout pour mettre en œuvre ce que l'exécutif et le Parlement ont approuvé sur les investissements d'avenir. Et distribuer, au moins pour le ministère de la Recherche, 22 milliards d'euros, c'est une responsabilité très lourde, mais c'est quand même, comment je peux dire, au-delà de la sous-charge de travail infernal, c'est quand même, je pense, assez agréable, surtout quand on a des retours de la part des présidents des jurys qui nous disent c'est impressionnant ce que dans les conditions actuelles vous arrivez à faire, et surtout d'arriver à faire sur 10 ans. Donc il y a une volonté de continuer. Juste un exemple. On parlait du stockage de l'énergie. Le ministère de la Recherche a mis en place un réseau national pour le stockage électrochimique de l'énergie avec les CNRS, avec les autres organismes technologiques tels que le COA, tels que l'IFP, tels que l'INERIS, avec les industriels du secteur. Le CNRS a décidé de mettre 20 personnes de plus, mais les investissements d'avenir ont reconnu la validité d'un projet de l'ABEX et d'un équipex qui fait que maintenant la région Picardie est en train d'accepter de construire un nouveau laboratoire à Amiens pour permettre ce fort développement. Donc, encore une fois, la synergie entre, je dirais, les différents acteurs des recherches industrielles et régionaux. Pour venir sur les transports, on s'attend beaucoup. A été évoqué les projets justement sur les transports automobiles, transport terrestre et maritime. Vous savez tous qu'il y a 1 milliard d'euros qui a été alloué à ça, 1 milliard d'euros qui est donné en gestion à l'ADEME, qui s'apprête à lancer les AMI. En total, l'ADEME aura 25 appels à manifestation d'intérêt sur tous les secteurs des investissements d'avenir. Pour ce qui est spécifique dans les domaines des transports terrestres, il y aura donc 750 millions d'euros sur les milliards que je viens d'évoquer, et tous les appels seront publiés avant la fin de l'année. Okay. Ça appartient au conseil d'administration de l'ADEME, dont je fais partie, de donner son accord définitif, et tout ça, ça sera bien évidemment pas tout utilisé avant la fin de l'année, mais ce sera sur plusieurs vagues qui vont s'étaler dans les années qui viennent, justement pour, encore une fois, rapprocher les deux bouts de la chaîne.
Monsieur Lamp, on a encore donné l'Allemagne en exemple, c'est terrible. Sur la désindustrialisation de la France, Monsieur Rousset a dressé le constat que c'était lié à sa centralisation, en fait, à l'absence de Mittelstand. L'Allemagne dispose d'un Mittelstand et de toute évidence, elle ne souffre pas ou pas autant de ce mot-là. À quelles conditions, à votre avis, vu d'Allemagne, l'Europe est capable de maintenir son avance technologique dans le domaine des transports? Est-ce que, vu de chez vous, elle devrait se spécialiser dans un certain nombre de secteurs, parce qu'il est possible qu'on n'arrive pas à être bon partout et forcément il faudra faire des choix? Et est-ce que ces choix devraient être plus européens? Parce qu'on voit beaucoup de concurrence entre industriels européens, ce qui est assez sain. Et parfois, on a plus de mal à percevoir la coopération qu'il peut y avoir entre eux pour positionner l'Europe comme acteur de la compétition industrielle internationale.
Yeah, okay. Well, I think Europe is not in a position to compete with the countries in Asia which have much lower production costs. And what we can do together in Europe is to use our innovation possibilities and to be fruitful in competition between the different countries. And that perhaps is a part of an answer, a question which was raised earlier, how the relationship between the German lender and the government view is organized. It's something like cooperation on the one hand and competition on the other hand. And this is, I tried to describe it earlier a little bit in this broader holistic approaches coordinated like in the high-tech strategy in the moment, and it is the framework to organize from the German point of view the economic position in Europe. To come back to your question, what can be focused on? I think, of course, those questions dealing with the use of ICT in the transport sector, the use of new technologies for the propulsion system, like electric propulsion systems, like the energy storage, those are key technologies, key drivers for the mobility of the future, at least. And I think under this level of headlines, there is a lot to do, to define, to discuss between the different stakeholders. And I think there is as well a strong demand for cooperation between not only the different institutions and companies in Germany, but as well with our partners in France and in Europe. And therefore, I'm very optimistic to find a way to answer this challenge, which is overcoming us in the field of mobility at the moment.
Merci, Monsieur Guyon. La coopération entre organismes européens, c'est important pour vous aussi? Est-ce que ça devrait l'être plus? Est-ce que c'est déjà présent suffisamment?
Non, je pense que la réorganisation, en fait, du système universitaire français lancé depuis quelques années le conduit à avoir une position qui sera équivalente à celle des partenaires européens. Donc ça va faciliter le type de relations déjà sous l'égide du ministère via les carnots. Existe des liens étroits entre les Fraunhofer et les différents carnots français qui permettent des appels à projets et de mener des projets en commun. Donc je pense qu'effectivement la voie européenne est ouverte. D'autre part, beaucoup d'équipes françaises travaillent en collaboration avec des chercheurs européens. Je crois qu'il y a plus de 20% des publications des chercheurs du CNRS qui se font avec les pays limitrophes. Beaucoup de laboratoires communs existent, laboratoires européens communs qui associent des équipes françaises, des équipes européennes. Donc je crois que la collaboration européenne est excellente, et puis les équipes françaises répondent bien sûr aux appels d'offres européens, bien que quelquefois ça soit très compliqué, tant sur le plan, surtout sur le plan administratif d'ailleurs.
Ça revient très souvent quand on parle de projet européen, les problèmes administratifs. En même temps, la Commission n'est pas là pour se défendre, mais je pense qu'elle dirait qu'elle ne peut évidemment pas dépenser son argent sans contrôler étroitement ce qu'on en fait, étant très loin de la base. Mais je ne veux pas me faire son avocate ici. Avant de donner la parole à la salle pour quelques questions, je voudrais que vous me disiez en une phrase chacun ce qui faut espérer pour le futur, ce que vous aimeriez qu'il advienne et qu'il pourrait advenir de meilleur, et ce qu'au contraire on pourrait craindre qu'il n'arrive pas ou qu'il se passe. En un mot, votre espoir et votre crainte principale, Monsieur Fioni, on commence avec vous.
La crainte, je ne la dirai jamais. Je fais suffisamment de golf pour savoir que si je pense négatif, la balle va dans l'eau. Donc, l'espoir, c'est clair pour moi, c'est-à-dire travailler ensemble, recherche publique, recherche privée, acteurs locaux, car c'est vraiment le futur de notre société, de notre pays qui est en jeu.
Monsieur Roussel.
Oui, je suis d'accord avec ce qui vient, d'être dit. Il faut peut-être poser le problème de l'objectif, c'est-à-dire se fixer un calendrier. Tout le monde sait aujourd'hui que notre planète est en souffrance et que il faut essayer d'éviter les erreurs que nous avons déjà commises sur le plan de l'agriculture, sur le plan des transports, sur le plan du logement. Et que tout ça suppose effectivement que tout le monde travaille ensemble et que les opérateurs qui sont à la manœuvre soient associés à cela. Je parle du cas français, encore une fois, je reste là-dessus, ça sera un peu le fil rouge de mon intervention. 7 euros sur 10 d'investissement public en France viennent des collectivités locales. 7 euros sur 10.
Merci, Monsieur Lhomme.
Yes, I think the main thing we have to achieve is that our research activities are successful, and we have some strong challenges in the field of mobility, especially in the field of mobility when we think for the new energies and the renewable energies. Very important from point of view in Germany, the discussion about renewable energies. And we were talking a lot about it. We are spending a lot of money in research at the moment, and we don't have to disappoint the people because they are waiting for our solutions at the moment.
Donc, délivrer des résultats. Monsieur Guillon.
Oui, j'ai à peu près le même commentaire. Je pense que le souhait essentiel, c'est que toute cette nouvelle organisation qui se mette en place permette de développer des recherches de haut niveau sur le long terme. C'est très important sur le long terme. Associant les sites, et je pense que l'Aquitaine est un bon exemple. Les résultats que les universitaires ont proposés sont excellents pour le moment. J'espère que ça continuera. Et puis je pense que je n'ai pas de crainte, si ce n'est que tout ça se mette pas en place, mais je ne le crois pas.
Monsieur Gigou.
Moi, je vais être tout à fait anglo-saxon. Je crois que ce qu'il nous faut espérer, c'est qu'on ait pour une fois le courage de persévérer. Qu'on ait tort ou qu'on ait raison, persévérons. Et je pense que ce qu'il nous faut craindre, c'est de retomber dans les travers de cette nation et des hommes et des femmes de cette nation, hyper intelligents, toujours à se poser des questions et assez peu, j'allais dire, enclins à aller jusqu'au bout du raisonnement. Au travers de ma culture, au travers de mon expérience, j'ai commencé ma vie professionnelle dans un groupe très, très français. J'ai été exporté aux États-Unis, travaillant pour une marque qui était un icône américain. Même Bill Clinton le mentionnait. Bill like a Mack truck. Donc, c'est vraiment un icône. Et puis, j'ai été balancé après de l'autre côté du monde, dans l'univers asiatique. Il faut absolument qu'on arrive à persévérer et qu'on ne se mette pas toujours sur le bas-côté en disant est-ce qu'on avait vraiment raison, est-ce que quelque part je ne suis pas plus intelligent que celui qui a dit qu'il fallait aller par là. Non, ça, et je crois que si on persévère dans les conditions que l'on voit, avec la coopération qui se met en place, avec l'ouverture qui existe, et j'ai un de mes anciens collègues qui travaille maintenant, Christian Esteve, qui travaille au ministère de la Recherche, quelque part, je pense que tout est possible. On l'a prouvé, prouvons-nous-le à nous-mêmes, pas pour nous, mais pour les prochaines générations. Moi, j'ai des petits-enfants, je tiens à eux.
Merci. Donc un peu de plus de persévérance scandinave, un peu moins de jacobinisme, et puis peut-être moins de doutes et plus d'orientation vers vraiment les objectifs et l'agenda qu'on s'est fixé. Merci à tous pour vos remarques. On a 5 minutes pour quelques questions, s'il y en a dans la salle. Je vous demande juste de lever le bras. Il y a 2 personnes qui ont des micros et qui sont prêtes à y répondre. S'il n'y en a pas, nous allons clore tout de suite. Ah, si, je vois monsieur là. Mademoiselle, devant, ici, au deuxième rang. Mais ici, avancez. Est-ce que vous pouviez juste vous présenter, s'il vous plaît?
Je vous remercie. Thierry Lafont, métier du courrier, groupe La Poste. Donc, je tenais à revenir sur les propos qui ont joigné le groupe La Poste, effectivement, à s'engager dans une politique résolue d'acquisition de véhicules électriques. Et je tenais à rappeler que le groupe La Poste avait été à l'origine du cahier des charges des premiers appels d'offres qu'il avait lancé seul en 2007 et qu'il n'avait pas reçu de la part des constructeurs de retour très positif. Qu'en 2010, Jean-Paul Bailly a été rédacteur d'un rapport qui a incité à la mutualisation des commandes et que cet appel d'offres a été lancé en collaboration avec l'UGAP, dans laquelle nous travaillons dans le groupement de commandes, et que c'est un des rares opérateurs de services publics qui a maintenu ses intentions de commandes avec 10 000 véhicules. Le second point, c'est que nous avons aussi diversifié cette offre par l'acquisition de véhicules, d'autres véhicules électriques, tels que les vélos électriques en remplacement de scooters, pour essayer de respecter nos engagements de 15% de baisse d'émissions de carbone, ainsi que des quads électriques qui, derrière, travaillent au remplacement des véhicules de type Kangoo, qui sont des véhicules thermiques, dans les livraisons en centre-ville. Je voulais revenir à ma question, en fait, parce que c'était un préalable à une question. Nous réfléchissons aussi très sérieusement à devenir partenaires des collectivités territoriales sur les problématiques de logistique urbaine et de centres urbains mutualisés. C'est pour cela que ma question s'adresse à notre orateur allemand, puisque l'Allemagne a une expérience de 20 ans sur la logistique urbaine mutualisée et qui ont été financées pour, en large partie par les landers et par les communes. Est-ce que le jour où les subventions effectivement s'arrêtent et que les landers se sont appuyés sur des opérateurs qui ne sont pas pérennes, est-ce que vous connaissez les résultats de ces nombreuses expérimentations?
Well, first I have to say that I'm not an expert in logistics, so I'm a little bit sorry, but I try to answer your question. So far as I understood, we have in Germany the situation that those operators who are interested in using innovative technology in their fleets or in their offers, they are supported in the framework of research. But this is a subsidy which lasts normally only for a few years. And the things you might have in mind are, to my understanding, more related to questions of ecological benefits, and they are as well strictly related to shorter time periods, and therefore I'm sure that this is not an ongoing system. It is should be a focal point to help in the introduction of new services, new innovations, and at least new technologies.
Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Non. Une autre question dans la salle? Oui, je vois ici.
Oui, c'est une question sur deux sujets qui ont été abordés, le marché pour les véhicules électriques.
Vous demandez de vous présenter, pardonnez-moi.
Bonjour, je m'appelle Pierre-Jean Pompé. J'ai fait 15 ans d'ingénierie d'entreprise générale, dont 6 au tunnel sous la Manche. Et au total, pas loin de 15 ans de ferroviaire. Et aujourd'hui, je travaille sur le projet du bateau du futur. J'ai travaillé aussi sur les chaînes de traction des véhicules électriques. Sur le véhicule électrique, je voudrais dire, par rapport à la réflexion qui a été faite dans cette assemblée, que la puissance publique n'a pas forcément commandé assez de véhicules électriques, et d'une manière générale, par rapport soit à l'autosatisfaction, soit au contraire au fait de se frapper la poitrine. C'est un sujet très difficile, parce qu'il faut savoir qu'un constructeur automobile a besoin de construire 100 000 véhicules, et non pas 20 000, comme peut en commander la Poste, mais 100 000, du même modèle, pour pouvoir concevoir un véhicule électrique. Ça veut dire que l'appel à acheter 100 000 véhicules électriques qui seront en réalité d'au moins 5 ou peut-être même 10 modèles différents,
va conduire à des séries de 10 000. Et donc, on n'obtiendra uniquement que des développements éventuellement très, très, très méritoires, comme le sont ceux de Venturi, ou des sous-traitants qui ont d'ailleurs travaillé pour la Poste, des sociétés comme Aixam qui font des voitures sans permis. Je voudrais donner un exemple sur le véhicule électrique, qui est celui de l'administration Clinton dans les années 90, de quel point la puissance publique peut faire quelque chose d'exceptionnel et en même temps quelque chose de désastreux. L'administration Clinton, dans les années 90, avec 1 milliard de dollars, a suscité l'un des véhicules électriques les plus fantastiques de toute l'histoire, qui s'appelle la EV1. Il existe un film que vous pourrez regarder sur Dailymotion qui s'appelle « Qui a tué la voiture électrique ?». Donc, cette voiture électrique qui comportait à l'époque à peu près tous les systèmes qu'on cherche encore à développer aujourd'hui, par exemple une pompe à chaleur pour le chauffage et la climatisation, comme est en train d'en développer Valeo. Ce véhicule-là a disparu et même a été éliminé scientifiquement, y compris des musées, parce que l'administration de Californie a choisi de le rendre, entre guillemets, obligatoire. C'est-à-dire qu'elle a, elle a fait une loi selon laquelle les constructeurs automobiles étaient obligés, pour vendre en Californie, d'avoir un certain pourcentage de leur production qui était électrique. Le résultat, c'est que les constructeurs ont fait en sorte de faire disparaître le marché pour ne pas être obligés de satisfaire à la loi, car c'était la seule clause qu'on leur autorisait pour ne pas y s'y soumettre. Et cette extraordinaire voiture, dont vous pourrez trouver très facilement des éléments sur Internet, a disparu en 2002-2003 avec l'administration Bush. Elle a été achevée en particulier par les lobbies pétroliers. Mais c'est le seul cas dans l'histoire où un constructeur a mis la somme nécessaire, c'est-à-dire 1 milliard de dollars, pour développer un véhicule d'une rupture à peu près totale. Et c'est un autre cas où l'administration, une autre administration, mais du même pays, s'est employée à détruire entièrement cet effort, et ce, de façon totalement involontaire. Ceci pour relativiser les propos soit défaitistes, soit enthousiastes que nous avons eus dans cette assemblée tout à l'heure.
Merci. Vous avez une question ou je demande une réaction?
La question, c'était à monsieur le président des régions de France. Lorsque vous avez parlé de ce marché insuffisant, qu'est-ce que vous auriez envisagé et quel genre de mécanisme auriez-vous proposé pour atteindre ce genre d'objectif qui serait de développer le véhicule électrique et hybride avec un soutien positif de l'État et, si j'ai bien compris votre propos, régionalisé également?
Oui, mais moi je suis parti d'un cas concret, d'une filiale de Dassault, que je peux le citer maintenant, qui s'était engagée, vous le savez sûrement si vous êtes dans ce milieu de recherche-là, qui s'était engagée sur à la fois de la recherche, du développement, effectivement, sur le plan du rendement du véhicule, avec un saut assez intéressant, un saut technologique assez intéressant. Sauf que si les régions finançaient une partie des investissements, une partie de l'innovation, une partie de la R&D, il fallait un minimum de commandes, et que ces commandes, à l'évidence, ce n'était pas que la Poste, c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y avait un ensemble de commandes que nous aurions dû faire ensemble, la Poste, les banques, etc., et que nous n'avons pas pu faire, et que donc ce projet a été repoussé. Mais le modèle existe. Je veux dire, comment voulez-vous que Bombardier ou Alstom modernisent leur TER ou leur tramway s'il n'y avait pas en face une commande massive des agglomérations et des régions? Les régions viennent de passer une commande de 15 milliards d'euros à Alstom et à Bombardier. Nous finançons en même temps, et il faut sûrement en être heureux, nous finançons en même temps l'innovation et la R&D des nouveaux TER, et des TER GV, des TER à grande vitesse, à travers le prix d'achat. Voilà, simplement ce que je dis, puisqu'on revient au débat, c'est que nous souhaiterions, nous, autorités organisatrices, ça compte quand même un peu dans l'objet de votre débat, que nous ayons du matériel fiable, robuste, dont le coût de maintenance et d'entretien ne soit pas exorbitant. Voilà.
Ça, c'est un peu une adresse aux, c'est un peu une adresse aux industriels. Je me tourne vers M. Duhem. Est-ce qu'on peut prendre une troisième question ou est-ce qu'on... Non. Alors, je suis désolée, on doit interrompre le débat parce qu'on a déjà légèrement dépassé et nous mangeons littéralement le temps de parole de Jean-Louis Léonard, le président du Prédit, auquel je laisse immédiatement le micro en remerciant notre panel pour ses réflexions.
Écoutez, je crois que, vous pouvez m'excuser, effectivement, on est tenu de respecter un peu les temps. C'est vrai que ces fins de colloque sont toujours très difficiles. Et je regrette, tout en saluant tout particulièrement nos invités, d'avoir dû leur couper un peu la parole. Mais les choses sont ainsi faites et, comme vous pouvez le vérifier, beaucoup avaient un avion à prendre. Et, mon cher Alain, je crains que cette salle te fasse penser à l'hémicycle que nous fréquentons régulièrement tous les deux de l'Assemblée nationale. Mais ça veut dire aussi que, comme à l'Assemblée nationale, beaucoup de gens sont passés ici, plus de 600 participants à ce carrefour, donc de grande qualité. Et naturellement, les fins de colloque sont toujours un peu difficiles. Ceci dit, je voudrais naturellement vous dire toute la satisfaction que nous éprouvons à la fin de ce carrefour qui a été d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Et compte tenu du recul que nous avons, Bernard Duhem et moi, sur le Prédit, nous sommes des anciens déjà de ce Prédit, Bernard depuis 2001, moi depuis 2003, c'est, je pense, mais je le dis à titre personnel, le carrefour de la belle qualité qui nous a été offert de conduire depuis cette date. Tout cela, naturellement, nous le devons à l'organisation, bien entendu. Je voudrais saluer et rappeler que l'organisation du Prédit est une petite organisation. Le secrétariat permanent est une toute petite organisation. Il est dirigé par Bernard Duhem, qui je tiens à présenter d'abord toutes mes félicitations et tous mes remerciements pour son dévouement, sa ténacité. C'est pas toujours facile de regrouper tous les moyens. Et je dirais que le carrefour que vous avez vécu n'en est que la partie apparente de l'iceberg, sachant que faire de l'interministériel dans notre pays, tout le monde sait que cela demande pas seulement de la négation, peut-être beaucoup d'inconscience, mais surtout beaucoup de courage. Je voudrais remercier, bien entendu, toute la petite équipe qui l'entoure, que ce soit Céline Fourdrilis, Jean-Baptiste de Franqueville, Bertrand T. ou Ralf Engel, qui s'occupe des questions européennes. C'est toute l'équipe, 5 personnes, avec une attachée de presse qui a dû partir. Et c'est vrai que 6 personnes pour piloter, et pour faire avancer et pour coordonner un programme de cette envergure, tu le comprends, mon cher Alain. C'est une belle performance et je dirais qu'en matière de poids spécifique par personne, c'est considérable. Je voudrais bien entendu remercier la mairie de Bordeaux, naturellement, et puis dire que ce lieu a été un peu magique. Faire le choix d'un lieu du XVIIIe siècle pour parler des problèmes du XXIe, voire du XXIIe siècle, c'est un peu un pari, c'est un pari réussi. Et tout cela parce qu'effectivement, ceux qui ont conçu ce lieu, cette bourse d'échange, l'avaient conçu pour des échanges économiques. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ces échanges scientifiques qui s'y sont produits confirment que leur conception était la bonne, même si elle a évolué. En tout cas, ce lieu est tout à fait extraordinaire et je voudrais féliciter la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux qui a choisi ce pari et qui a mis les moyens pour le réussir. En tout cas, je voudrais féliciter également toutes les autres collectivités territoriales, naturellement la région et son président Alain Rousset, mais également la CUP de Bordeaux qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés, qui nous ont conseillés dans cette démarche, et puis l'accueil de la mairie de Bordeaux, naturellement, qui nous a accueillis l'autre soir et qui nous a permis de visiter et de profiter de cette ville, y compris de ses développements d'ailleurs, je crois que c'était important. Je voudrais signaler également la présence très forte du GART. Car mon cher Alain, vois-tu, depuis quelques années, les autorités organisatrices sont étroitement liées aux travaux que nous développons. D'ailleurs, je souligne la présence du vice-président du GART qui nous a accompagnés tout le long de ces travaux. Je voudrais effectivement rappeler que le GART a tenu ici même, mardi matin, sa commission innovation sur le stockage d'énergie, comme quoi c'est un sujet qui nous préoccupe énormément et qui prend une bonne place des financements et des projets qui sont accompagnés par le prédit. Donc je crois que c'est important. C'est important que le GART soit présent naturellement, comme tu l'as dit, parce que c'est vrai que c'est un peu nouveau et nous avons réassocié le GART avec Bernard Duhem aux travaux du prédit. Le GART est désormais, depuis le prédit 4, associé directement et physiquement au conseil d'administration, au comité de pilotage du prédit. Et c'est désormais Bernard Ribalta, donc président, enfin patron du CICRAL de Lyon, qui représentera le GART dans nos instances dirigeantes. Enfin, naturellement, je voudrais saluer aussi la présence des pôles de compétitivité, parce que tout jacobin que nous sommes, tout jacobin qu'est la recherche, effectivement interministérielle, il faut savoir que le financement est interministériel, les pôles de compétitivité sont extrêmement présents, extrêmement présents, et c'est un peu la démultiplication, finalement, de l'action nationale, de l'action verticale, par le biais des pôles de compétitivité qui permet d'assurer cette liaison avec les industriels, mais également les régions, qui sont parmi les premiers financeurs, comme tu l'as dit, de la recherche en France, avec naturellement la forte participation des universités dans ces pôles. Et puis, naturellement, je tiens à remercier tous les experts qui se sont associés. D'abord, les experts du réseau. Le prédit, je le rappelle, au-delà de sa microstructure permanente, est avant tout un réseau des experts. C'est ce qui fait d'abord la force du prédit. La force du prédit, c'est ce réseau exceptionnel qui vit en permanence et qui choisit ces moments forts des carrefours pour se rassembler et pour diffuser sa connaissance. Enfin, tous ces experts qui sont venus également animer nos tables rondes, le nombre et la qualité des réunions, pas seulement des tables rondes, pas seulement des plénières, mais de l'ensemble des réunions qui se sont tenues un peu partout et des conférences, prouve bien la qualité et la nécessité d'échanger. En tout cas, je crois que le reproche qui m'a été fait implicitement, c'est que finalement les choix étaient tellement importants, la variété était tellement importante que les gens ne savaient plus quoi choisir et qu'ils auraient aimé participer à 3 conférences en même temps, ça a été mon cas, et qui allait de l'urbanisme à la recharge, qui allait de la résistance des matériaux au système. Je crois que tout cela a été extrêmement riche et je tiens à en remercier à la fois les experts, mais également tous les participants. Et puis, naturellement, il y a ce qui a été dit, et je voudrais, sans vouloir engager un dialogue avec Alain Rousset, je voudrais te rassurer, Alain, si tu veux, sur le souci que tu affiches pour les matériels. Je connais ce souci des opérateurs par rapport au matériel. C'est vrai que la recherche définit des principes, elle fait avancer les concepts, elle permet effectivement à un certain moment de transformer les concepts en réalité, mais après, il ne faut pas mélanger la recherche et le développement avec les relations contractuelles. Je crois que c'est un souci permanent, et Dominique Dron l'a rappelé ici en ouverture, ce souci de la résistance des matériels, de leur fiabilité et de la résilience des systèmes. Parce qu'on parle souvent de la technologie, on ne parle peut-être pas assez de la résilience des systèmes. Effectivement, systèmes de transport doivent afficher la même fiabilité, la même résilience. Mais je crois que c'est avant tout comme l'opérateur a une relation contractuelle avec son usager, il me semble que l'opérateur et le client doivent établir des relations contractuelles fortes avec son fournisseur. En aéronautique, nous l'avons connu au départ, et c'est vrai que le coût de maintenance d'un avion était devenu prohibitif. Dans les années 83-84, avec l'apparition des monocouloirs de nouvelle génération, un nouveau concept, les opérateurs, les compagnies aériennes ont imposé un nouveau concept contractuel aux fabricants d'avions, c'était le concept à l'heure de vol, le coût garanti à l'heure de vol. Et j'imagine que vous, opérateurs, et vous, grands opérateurs de transport, vous devriez avoir cette relation contractuelle avec vos fabricants et définir un coût maximum de maintenance à l'heure au kilomètre, à ce que vous voudrez, mais avec une unité bien affranchie. Et je pense que le coût garanti, le coût de maintenance garanti au kilomètre parcouru pour un moyen de transport devrait être une base contractuelle forte et qui permettrait effectivement de résoudre en partie ce problème. En tout cas, je peux te dire que sur le plan de l'aéronautique, ce que j'ai vécu tout particulièrement en tant qu'ingénieur et en tant que responsable de programme, je l'ai vécu, elle a été dure à accepter. C'est vrai que ça nous a coûté, ça nous a engagés aussi dans une véritable révolution culturelle. Je te donne cette piste, je pense qu'elle est à creuser. Il est possible d'engager un certain nombre d'études et de recherches là-dessus, mais tu pourrais être effectivement le fer de lance, toi, président des régions de France et grand ordonnateur de la commande publique en matière de transport. C'est peut-être une piste à poursuivre. En tout cas, je pense que dans ce monde de la recherche, effectivement, et d'après ce que nous disait, je comprends que tu sois étonné et que beaucoup soient étonnés, effectivement, que le véhicule électrique n'ait pas été développé plus sur la force publique. Je crois qu'il faut être raisonnable, et nous avons vécu dans le Prédit 3 une expérience tout à fait exceptionnelle. C'est d'ailleurs l'expérience dont tu parlais. Nous étions partis du concept suivant. C'est que pour changer la culture et pour modifier la culture vis-à-vis du véhicule électrique, il fallait une masse critique. Il fallait dépasser la masse critique. Et nous avions effectivement dépassé la masse. Il faut une masse critique en termes de production. Un intervenant le disait tout à l'heure, il faut que le constructeur obtienne sa masse critique pour amortir ses investissements. Et il faut également une masse critique vis-à-vis de la culture du conducteur. Et nous avions envisagé effectivement de soutenir, nous avons soutenu très largement le développement d'un véhicule avec Eliès, partant du principe que les grands constructeurs n'étaient pas adaptés dans leur culture à des développements de moyenne capacité ou de petite capacité, nous avions choisi de soutenir un constructeur, un carrossier, un grand carrossier, Eliès, avec un grand électronicien, Dassault, pour développer, via sa filiale SVE, un programme de véhicules électriques, avec un apport considérable, voire massif, de soutien de l'État, de soutien de fonds publics. Force est de constater qu'on n'est pas au rendez-vous, et que cette convention que nous avions n'a pas abouti jusqu'au bout, mais pas du fait du marché, parce qu'effectivement, la Poste a joué le jeu, ils ont défini les utilisateurs potentiels, ces flottes captives qui étaient le vecteur et surtout la cible que nous avions recherchée, ont défini leur cahier des charges, en fonction naturellement de leurs besoins, que ce soit les grandes entreprises publiques comme EDF, GDF, la Poste, ou des entreprises privées de messagerie, ont défini leur cahier des charges. La recherche d'une plateforme commune a abouti. Malheureusement, les constructeurs n'ont pas réussi à tenir ce cahier des charges, à la fois sur le plan technique, mais surtout sur le plan financier. Il faut savoir que les coûts auxquels on arrivait ne pérennisaient pas le système. Donc c'était un modèle que nous avons dû abandonner. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faudra pas le reprendre? Je n'en sais rien. En tout cas, je voulais te dire que la recherche française a participé et a joué le jeu. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé la réponse chez les constructeurs français. D'autres expériences ont été tentées. Alors, je ne connais pas l'expérience américaine qui nous a été citée, mais d'autres expériences de ce type ont été tentées chez nos voisins. Elles ont malheureusement échoué, notamment en Italie. Et puis, ce que je voudrais vous dire au niveau de ce carrefour, c'est vrai que pour nous, il est assez difficile de conclure un carrefour à mi-parcours. On peut tout au plus faire des constats. Ces constats, naturellement, pour nous, ils doivent correspondre à ce que nous recherchions. Tout d'abord, il nous faudra analyser l'ensemble des échanges, puisque ces constats, nous ne les ferons qu'au vu des échanges qui ont été menés, soit dans les plénières, soit dans toutes ces réunions. Le carrefour est là pour animer le réseau, il n'est pas là pour faire des effets d'annonce, il n'est pas là pour plaire à la presse ou pour plaire au grand public, il est là avant tout pour réunir le réseau, ce réseau du prédit, et mettre en commun à la fois nos projets, nos besoins, nos soucis, et je crois qu'il faudra une analyse. En revanche, je pense que nous pouvons d'ores et déjà tirer trois conclusions générales de ce carrefour. La première, c'est vis-à-vis de la recherche elle-même. Ce qu'on peut dire, c'est que la recherche sur les transports, celle qui nous concerne naturellement, mais je crois d'une manière générale, la recherche en France sort par le haut de la crise. Pourquoi elle sort par le haut? C'est parce que contrairement à ce qui se passe généralement lors d'une crise, où on constate une contraction des crédits, contraction des efforts, on revient à son essentiel, à son quotidien, que ce soit au niveau des budgets de l'État, dont on connaît tous l'État aujourd'hui, naturellement la situation aujourd'hui, que ce soit au niveau des entreprises, traditionnellement, lors d'une crise, on se contracte. Or là, qu'est-ce qu'on constate? On a constaté un surinvestissement massif, à la fois dans la recherche, mais ailleurs également, principalement dans la recherche pour ce qui nous concerne. Alors, est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou le contraire? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les investissements publics, les surinvestissements publics, à la fois avec le fonds démonstrateur, puis les investissements d'avenir, qui ont généré, qui ont stimulé, qui ont induit le surinvestissement privé, j'en sais rien, ou le contraire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut dire que la recherche sort par le haut. Alors évidemment, on a eu un premier élan avec le plan véhicule propre, qui était un petit galop d'essai avec ses 5 millions d'euros en 2004, et puis le fonds démonstrateur, et puis le milliard consacré à la recherche sur les transports des investissements d'avenir, je crois que même si effectivement l'État n'a pas l'habitude de lâcher ces fonds, qui sont souvent d'ailleurs des avances remboursables avec grande facilité, je pense que, comme l'a dit le représentant des pôles de compétitivité de Moveo, ces investissements d'avenir sont vraiment un véritable levier pour nous, ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, de conclure en tout cas provisoirement, que la recherche sort par le haut de cette crise. Ensuite, pour nous, il est important, lors d'un carrefour, de vérifier la répartition thématique. Naturellement, nous partons d'un protocole d'accord, nous partons d'un protocole signé avec l'ensemble des financeurs, trois ministères, trois agences, et on peut dire que l'ensemble de ces financeurs a répété, a réaffirmé hier sa volonté de continuer dans ce sens. Mais pour nous, l'essentiel, c'est de vérifier d'une part que nous sommes bien dans l'épure de notre protocole, que nous sommes en ligne avec nos objectifs, mais qu'après 3 ans, et notamment après le passage d'une crise telle que nous avons vécue, les objectifs définis il y a 3 ans sont toujours en ligne à la fois avec les besoins du marché et également avec les capacités du monde de la recherche. Ça, c'est une vérification importante pour nous, et je crois que, naturellement, cette vérification est à peu près faite. Des premiers échos, des premiers échanges qui ont eu lieu lors de ce carrefour, on peut dire que l'on est à peu près rassuré là-dessus. Je dirais même que notre crainte, qui est de laisser un peu pour compte un domaine comme la connaissance, comme les sciences humaines et sociales par rapport à la technologie, ce souci que nous avons, a été largement battu en brèche pendant ce colloque, où on a vu à la fois la connaissance prendre vraiment une large part des débats, mais également les services. Et je pense qu'il nous faudra peut-être revoir cette répartition traditionnelle entre la technologie-service que l'on associe et la connaissance. Je pense qu'on fait face aujourd'hui à 3 grandes catégories, toujours les sciences humaines et sociales, dont on a beaucoup débattu, cette connaissance, cette psychologie du conducteur, cette psychologie du marché, cette psychologie des systèmes, avec naturellement les services qui prennent une part prédominante maintenant, à la fois dans la recherche, mais dans le souci des utilisateurs. Et c'est pour ça que finalement, associer les opérateurs et les usagers à la recherche, comme nous le faisons aujourd'hui, a un sens au travers des services, puisque ces services deviennent effectivement une part prépondérante de la recherche française. Et naturellement, reste la technologie qui aura, qu'on le veuille ou non, toujours la part belle. Donc on peut dire aujourd'hui que, sous réserve d'inventaire, naturellement, cette volonté et ce choix que nous avons fait des objectifs en 2007, confirmés par le Grenelle, sont à peu près corrects, restent toujours d'actualité et qu'on peut considérer que l'on est en ligne avec ces objectifs. Donc, pour nous, nous n'avons pas de raison de modifier considérablement cette épure. Troisièmement, la question qui se pose à la sortie d'un carrefour comme celui-là, est-ce que la gouvernance du Prédit est adaptée? Cette gouvernance qui a été définie, qui a été redéfinie avec le Prédit Cap, qui a fait l'objet d'une large réflexion, qui a fait l'objet également de propositions, cette gouvernance a survécu, je dirais, non seulement à la crise, mais auparavant à cette espèce de maelstrom de la réforme. Soyons clairs, je me suis retrouvé en 2007 devant un directeur de cabinet qui m'a dit très clairement, on supprime le Prédit. Je dis, ah bon, très bien, on supprime le Prédit, pourquoi? Eh bien, parce que, c'est la réponse qu'on fait à un gamin, quand on ne sait pas quoi lui dire, je lui dis oui, d'accord, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Pourquoi? Là, parce qu'il faut réformer. Le Prédit a déjà 15 ans, donc on le supprime. Et attendez, ce n'est peut-être pas suffisant non plus. On peut supprimer parce que ça ne marche pas, on peut supprimer parce qu'on a mieux, mais on ne supprime pas pour supprimer. Donc pourquoi on supprime le Prédit? Et finalement, on s'est aperçu que, à quelques modifications près, parce que nous avons une évaluation de notre système, il ne faut pas croire qu'on travaille en boucle ferme, en boucle ouverte. On a fermé la boucle, on est en asservissement parfaitement contrôlé, et donc j'ai présenté le projet, à la fois au cabinet et puis à la ministre, puis on s'est aperçu que finalement, le réseau Prédit, et c'est ce réseau, c'est la force de ce réseau qui nous a sauvés, le réseau Prédit était parfaitement adapté à une situation moderne, et que réformer le Prédit, c'était jamais que reconduire le Prédit Cap, ce qui a été fait d'ailleurs dès le Grenelle, dès la fin du Grenelle, et le Prédit Cap aujourd'hui vit sa vie et profite également de tous les apports à la fois du paysage de la recherche, des opérateurs et des usagers. On a vu hier apparaître dans une plénière une grande association qui représente à la fois l'environnement mais aussi les usagers, apporter une contribution non négligeable à nos propos. Donc ça veut dire que Je dirais que le fondement même du prédit résiste parfaitement à la fois à la crise, mais aussi à la réforme. Et puis, je dirais même, accessoirement, à la RGPP, parce que c'est vrai que faire passer la RGPP sur une organisation de 4 personnes, je veux bien qu'on en supprime 2, mais il ne va pas rester grand-chose. Donc, on a résisté à tout cela. Par contre, la question se pose d'une manière beaucoup plus cruciale par rapport aux adaptations au paysage de la recherche. Et là, je suis d'accord, effectivement, il y a des questions qu'il faut se poser. Prédit 3 a vécu une grande transformation de la recherche. On est parti avec un système très classique, très jacobin, financement extrêmement vertical, venant des ministères, et puis en cours de route, on s'est retrouvé avec l'arrivée de l'ANR, donc on ne savait plus très bien où aller, et puis avec l'arrivée des pôles de compétitivité. Comment positionner un schéma et comment positionner un processus comme le prédit dans un changement aussi radical? Eh bien, nous sommes parfaitement adaptés, et c'est le réseau, là encore, le réseau de la recherche, qui a maintenu, qui a soutenu, qui a défendu, qui a volontairement perpétué le prédit, et c'est ce qui a permis de passer au travers de cette grande réforme et surtout de s'adapter. Et aujourd'hui, Jacqueline Le Courtier l'a répété encore hier, le prédit constitue pour l'ANR un des piliers très forts de son action sur les transports. Et puis, je crois que ce qui fait aussi la solidité du prédit, c'est sa souplesse. Sa souplesse qui permet aux financeurs de conserver dans les purs prédits, c'est-à-dire dans le protocole de financement, dans le protocole, dans les choix stratégiques qui ont été définis à la fois par le président de la République pour ce qui est du véhicule décarboné, mais également par l'ensemble des intervenants pour ce qui est des services et par la demande également de services dans les collectivités, eh bien c'est ce qui permet effectivement aux prédits d'assurer sa pérennité. Et quant au prédit 4, naturellement, eh bien nous avons vu arriver le fonds démonstrateur des investissements d'avenir. Quand on met d'un côté 400 millions pour le prédit et de l'autre côté 1 milliard géré par l'ADEME, on peut s'interroger qui va prendre le dessus et est-ce que le prédit peut encore résister à ce rouleau compresseur de l'ADEME. La réponse nous a été donnée par Xavier Lefort hier. Effectivement, on peut très bien gérer 1 milliard, mais s'intégrer parfaitement dans le système existant. Et ce milliard, justement, c'est ce qui a été répété par Xavier Lefort, ce milliard est à intégrer directement, même s'il ne fait pas partie officiellement du budget du prédit, c'est à intégrer directement dans le protocole et dans l'épure définie par les objectifs du prédit, ce qui est plutôt rassurant, mais ça demande effectivement une mobilité d'esprit, une grande gymnastique intellectuelle. Il est évident que pour nous, abondant, mais je suis très rassuré, puisque ce carrefour a permis également à l'ADEME, à l'ANR, à OSEO, à la DRI et puis à la DG6 de répéter leur volonté de rester et de continuer à s'inscrire dans ce réseau prédit qui fait sa force. Voilà ce que je voulais vous dire, naturellement. Et puis, en vous remerciant, en remerciant tout particulièrement les derniers des Mohicans, ceux qui ont résisté jusqu'à la fin, ceux qui sont encore ici, et puis, avec un petit clin d'œil, effectivement, sur nos amis allemands qui ont participé très largement, et notamment leurs représentants, ceux qui ont permis à ces chercheurs allemands, à ces professeurs d'université, de venir nous accompagner, et à vous, monsieur, effectivement, d'avoir participé à cette table ronde et d'avoir amené votre expérience allemande, sachant que tout le monde sait que les relations, pas seulement entre États, mais que les relations scientifiques entre l'Allemagne et la France sont très fortes, et au travers de l'EFRACO, notamment, une coopération de très longue date entre les ministères allemands et nos ministères, et puis naturellement le prédit. Encore merci à vous d'avoir honoré, d'avoir amélioré la qualité de ce carrefour par votre présence. Voilà, à toutes et à tous, et bien ma foi, il me reste à vous donner rendez-vous à bientôt, car les appels à projets vont continuer, le prédit va continuer à essayer de s'améliorer, à vous alimenter, répondez très nombreux, soyez nombreux à profiter et à alimenter ce réseau prédit et ce réseau de la recherche. Nous, de notre côté, nous allons continuer à être de plus en plus performants, et puis naturellement, je vous donne rendez-vous dans 3 ans, pour en 2013, pour le carrefour final, en espérant que nous aurons réussi non seulement à tenir nos objectifs, mais à définir les objectifs du futur prédit, et je dirais sans préjugés que nous avons de bons espoirs d'être capables de mettre en place un prédit 5. Merci.